Bonjour à tous. Permettez-moi de commencer par remercier le professeur Kerouadan de m'avoir associé à ce colloque, de m'avoir donné l'occasion, de me donner l'occasion de revenir sur un parcours que je commençais à oublier. En effet, j'ai quitté l'OMS il y a déjà 6 ans. Et donc, ce dont je vais parler ici, manager la santé dans les situations de crise dans la région africaine, est un sujet un peu général qui dépasse un tout petit peu le panel sur le Mali, mais il y a quelque chose, malgré tout, qui peut servir au Mali et dans l'expérience malienne. Cette photo représente l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que je vais prendre des exemples un peu partout, parce que, comme le dit l'intitulé, c'est « Manager la santé dans les situations de crise dans la région africaine ». Ce sont des déplacés internes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, en rapport avec la crise post-électorale. J'ai préparé un sommaire parce que, bon, ce n'était pas évident, à première vue, de voir qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce thème, « Manager la santé ». Donc, en introduction et en rapport avec le colloque, le thème du colloque, on se rend compte, je vais un tout petit peu développer le fait que les crises sont le théâtre par excellence de la diplomatie sanitaire. Ensuite, on va s'interroger pour voir comment une crise peut en cacher d'autres. Crise de territoire, crise de système. Et en fin de compte, c'est la vulnérabilité qui est en cause. En deuxième temps, je voudrais parler de l'acte ou la fonction de manager la santé, non pas d'une manière générale, mais la manière dont j'ai eu l'expérience. Donc, avant d'être un exercice stratégique, manager la santé est un exercice frustrant. Donc, un exercice frustrant. Ensuite, montrer comment manager la santé est un exercice stratégique. Et en conclusion, 2 idées. Institutionnaliser l'évaluation systématique de l'humanitaire. Institutionnaliser la réduction de la vulnérabilité. Donc, en introduction, j'ai fait un petit rappel historique. Effectivement, fini les temps où les graves crises sanitaires, épidémies, maladies du sommeil, de la lèpre, étaient gérées par une seule administration, une administration de surcroît coloniale. Et tout ça se faisait autour d'un individu, particulièrement stratégique, particulièrement extraordinaire, et on a vu ces maladies-là se conjuguer au passé. Il s'agit du docteur Jameau pour la maladie du sommeil, du docteur Raoul Folro pour la lèpre. Et on peut se demander si ce ne sont pas les aïeux de l'action humanitaire. Aujourd'hui, il y a une responsabilité mondiale à intervenir en cas de crise. Donc, les acteurs pour gérer la crise, pour appréhender la crise, sont très nombreux. Ils sont nombreux, mais les éthiques et les approches aussi. Maintenant, on doit se poser des questions par rapport aux résultats. Est-ce que les résultats sont proportionnels au nombre d'acteurs qui interviennent? Et ça, je tiens cette expression d'un cadre de Congo-Kinshasa qui, sur un ton un peu humoristique, disait dans l'est de son pays, il y a tellement d'acteurs pour intervenir dans la résolution des crises qui sont en cours dans cette région-là. Il y a tellement d'acteurs, et surtout en matière de santé, il a l'impression que les résultats sont inversement proportionnels. Donc je tiens de lui cette expression de proportionnalité par rapport au nombre d'acteurs qui interviennent. Autre interpellation, quand on voit le nombre d'acteurs qui interviennent, les éthiques, avec leurs approches, etc., qui a certainement un besoin d'une gestion efficace, une coordination rigoureuse des questions de santé en situation de crise. Maintenant, la crise, comment est-ce qu'on l'appréhende ? Est-ce que c'est une crise de territoire, une crise de secteur ou une crise de système ? Effectivement, on peut donner quelques exemples. À l'ouest de tel pays, il y a des incursions répétées de miliciens, de mercenaires. Dans la vallée de tel fleuve, il y a des inondations gravissimes. Il y a des épidémies de choléra dans le sud-est. Donc l'état d'urgence est reconnu, un appel est lancé à l'humanité et il y a intervention. Mais cette urgence humanitaire, elle-même peut être complexe, c'est sûr, mais elle vient se mettre sur une crise latente, par exemple, du système de santé, du secteur de la santé. Un secteur de la santé qui connaît ou vit une insuffisance de financement, une insuffisance d'infrastructures et d'équipements, des quantités et qualités insuffisantes de ressources humaines en santé. Et puis, si on prend un critère synthétique pour résumer tout cela, le faible taux de fréquentation des structures de santé montre bien que nous avons déjà une crise qui est là au moment où intervient la crise humanitaire. Donc, il y a superposition de plusieurs crises. Il y a des strates de crise. On a encore une autre photo de population en détresse déplacée. Si on se réfère à des données qui sont un peu anciennes, mais on a vérifié que ces données sont toujours valables, sur 100 catastrophes, à l'échelle mondiale, 20% seulement surviennent en Afrique, alors que 60% du total des décès liés à ces catastrophes sont des victimes africaines. 20% des catastrophes, 60% des décès. Donc ces deux chiffres montrent que plus que le niveau de sévérité des catastrophes, des désastres, des crises, c'est le niveau élevé de vulnérabilité des espaces et des sociétés africaines, y compris vulnérabilité du système de santé, c'est cette vulnérabilité-là qui est en cause. Donc, manager la santé, un exercice frustrant. Donc, comme je répète, avant que le fait de manager la santé devienne quelque chose de stratégique, d'extrêmement important, tendant à réussir des résultats, à obtenir des résultats élevés, avant que ça ne soit cela, C'est un exercice frustrant. Pourquoi ? Avant de répondre au pourquoi, il faut savoir qui manage. Et là, on ne va pas faire de manière... On sait que le leadership mondial en matière de santé est confié à l'OMS depuis 1946. Et que l'OMS est un réservoir des savoirs en matière de santé. Mais l'OMS, c'est une vieille dame. C'est une vieille institution qui a été créée pour pays stables. Donc, dans un contexte où ce qui dominait, c'était la stabilité, dont son mandat était en fonction essentiellement de cela. Mais son mandat a dû évoluer vers l'humanitaire et depuis 2002, il y a une prise de conscience très, très forte qui est reflétée par un certain nombre de résolutions de l'Assemblée mondiale en faveur d'une plus grande implication de l'Organisation mondiale de la santé dans les situations de crise. Face aux épidémies, son leadership est reconnu par tous, il n'y a rien à dire. Face aux crises complexes, effectivement, elle s'expose à la critique. Je vais en dire un mot, mais ces critiques ont été très bénéfiques pour aider à travailler autrement au sein de l'OMS par rapport aux crises. Justement, je vais vous donner un exemple de critiques et de reproches qui sont faits à l'OMS. Cela date de 2004 à Bruxelles, OCHA, qui dit ceci: l'OMS, vous-même, vous ne vous considérez pas comme un agent prioritaire pour les crises, et nous, ECHO, on ne vous considère pas comme tel non plus. Donc, l'OMS n'est pas vue comme un partenaire prioritaire dans les urgences humanitaires par elle-même ni par ECHO. Ensuite, on nous dit, l'OMS travaille à partir d'une approche, à partir de moyens de long terme, et n'a donc pas organisé ses outils, sa philosophie, son personnel pour adresser les urgences et les crises humanitaires. Donc, il y a cette exposition à la critique. C'est frustrant. Il y a d'autres facteurs de frustration. L'OMS est, parmi tous les acteurs, le seul acteur qui a une position unique, une position qui est à cheval sur le ministère de la Santé des pays et l'international. Un genre de position de médiateur. Mais cette proximité avec le ministère de la Santé, qui sert énormément à régler beaucoup de questions pendant les situations de crise, cette proximité lui est parfois reprochée. On lui trouve trop d'acquaintance vis-à-vis des ministères. Et chaque fois qu'il y a un problème ou un manquement au niveau du ministère, c'est l'OMS qui est, c'est la réputation de l'OMS qui en prend un coup. Par exemple, quand les échantillons sont envoyés au laboratoire pour la définition des cas, si ça traîne, si ça ne vient pas, c'est l'OMS qui est responsable de cela. Je dois dire que dans le mandat de l'OMS, dans sa coopération avec les pays, il y a un chapitre dans lequel l'OMS, autorité internationale en matière de santé, peut, en cas de défaillance complète de l'autorité nationale en matière de santé, se substituer plus ou moins à elle, suivant un certain nombre de conditions. Autre facteur de frustration, c'est le manque de visibilité et le manque de prestige. Sur le terrain de la crise, les personnes qui vont, au nom de l'Organisation mondiale de la santé, que nous avons eu l'occasion de rencontrer, des jeunes recrues, je parle des jeunes recrues, pas des gens, pas les anciens de l'OMS, quand ils arrivent sur le terrain de la crise, parce qu'ils sont médecins, ne comprennent pas pourquoi ils sont astreints à organiser des réunions de coordination, à rechercher des documents techniques pour soutenir telle ONG qui a besoin d'avoir des informations sur tel ou tel sujet. Ils aimeraient bien, comme les autres médecins des ONG, pouvoir faire passer à l'acte, être opérationnel. C'est plus valorisant, c'est plus prestigieux, et ce rôle qui ressemble à de l'administration les frustre quelque peu. Cependant, il y a un large consensus autour d'un renforcement des capacités, ça c'était en 2003-2004, des capacités de l'OMS dans les urgences et les crises. Et vous avez vu les critiques très acerbes de ECHO par rapport à l'OMS, mais c'est ECHO qui a donné le plus de moyens à cette organisation pour renforcer ses propres capacités à intervenir dans les crises humanitaires. Comment cette organisation intervient et manage la santé dans les crises? Elle a plusieurs fonctions qu'elle a organisées en quatre grandes fonctions, synthétisées en quatre grandes directions. Évaluation des besoins et priorités en santé, où se trouve, où on peut trouver la surveillance épidémiologique, etc. La coordination des interventions sanitaires, l'identification et remplissage des gaps et le renforcement des capacités locales. Aujourd'hui, avec le privilège que j'ai d'être retraité, je peux me permettre de dire que la troisième fonction, identification et remplissage des gaps, est une fonction qui ne paraît pas vraiment stratégique et ne correspond pas tout à fait au mandat et à la philosophie de l'OMS. On peut se permettre de se passer de cette troisième fonction et ne retenir que trois fonctions principales qui, elles, sont véritablement stratégiques et conformes au mandat de l'OMS. Il s'agit de l'évaluation des besoins et l'identification des priorités en santé, la coordination des interventions et le renforcement des capacités locales sur des questions techniques, mais aussi sur, ça peut être sur des questions de collecte de données épidémiologiques, etc. J'ai mis quelques mots pour préciser chacune des fonctions, des trois fonctions stratégique, l'évaluation donc des besoins et priorités en santé apparaît comme la recherche d'un dénominateur commun, un dénominateur entre griffes, pour que tout le monde travaille sur la même base, la même plateforme. Voici où sont les problèmes, voici où sont les priorités, et cela est valable pour tout le monde et permet à chaque acteur de planifier ses actions conformément aux priorités. La coordination, tout le monde sait à quoi sert une coordination, c'est pour harmoniser, bien sûr, les positions. Ici, il s'agit généralement de protocoles, d'identifier les gaps, éviter les doublures, éviter les accidents, rechercher des synergies, donner la chance d'avoir de meilleurs résultats parce que on recherche des synergies. Et cela permet à chaque acteur aussi de planifier et d'échanger les informations sur ce que chacun fait par rapport à la santé dans la situation de crise. Enfin, le renforcement des capacités locales. Là aussi, c'est pour rechercher de meilleurs résultats sur le terrain de la réponse à la crise, mettre les gens au même niveau de compétences, mais en même temps qu'on le fait pour avoir une meilleure réponse à la crise, c'est aussi pour préparer la période de transition vers le développement. Et donc, ces renforcements de capacités s'adressent aussi bien à des questions techniques, la prise en charge des maladies mentales en situation de crise, les problèmes d'eau, les problèmes de nutrition, de santé de la mère, etc., mais aussi, comme j'ai dit, sur les questions de collecte et traitement des données épidémiologiques ou formation des techniciens de laboratoire. En conclusion, deux idées. L'institutionnalisation de l'évaluation de l'humanitaire, c'est vrai, on se pose beaucoup de questions sur les résultats. Est-ce que les résultats que nous avons sont à la hauteur des moyens, des investissements à la fois humains, financiers, logistiques qu'on y introduit ? Peut-être que des évaluations peuvent aider à mieux cibler et à obtenir en fin de parcours davantage de résultats et un niveau plus élevé de vie sauvée et de réduction des souffrances des populations. Cette évaluation systématique peut être considérée comme un exercice qui est susceptible d'aider tous les partenaires de quelque côté qu'on se trouve. Et ces évaluations peuvent fournir des informations utiles pour la réduction de la vulnérabilité. Enfin, la deuxième idée, qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas originale non plus, mais on est en face de la réalité, on est obligé de revenir sur cette idée-là. Pourquoi ? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas de, d'institutionnalisation, même quand un pays a passé la guerre. Donc, pour réduire la vulnérabilité, nous pensons essentiellement à institutionnaliser la réduction des programmes de réduction, de réduction des risques, de prévention et de préparation à la réponse aux catastrophes et aux crises. Cette institutionnalisation ne se voit pas essentiellement au niveau central, mais aussi également au niveau des communautés. Cette institutionnalisation ne se voit pas seulement au niveau national, mais peut se voir au niveau régional, sous-régional. Et en cela, l'exemple des pays sud-américains peut être extrêmement utile. Pour revenir sur ce que disait un des intervenants hier, on pourrait simplement dire qu'il faut s'inspirer de l'exemple de Cuba, qui chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle ou semi-naturelle, n'a pas besoin de faire appel à l'humanité. Il a pris déjà des dispositions en termes de logistique, en termes de manière de construire les maisons, en termes de connaissances par les communautés de ce qu'il faut faire pour gérer ces catastrophes. Donc, on se dit, dans la région africaine, il n'y a apparemment pas d'obstacle pour un pays qui a connu la guerre, qui a connu une catastrophe quelconque, d'user, il n'y a pas d'obstacle, d'user de l'opportunité de la reconstruction pour faire les choses autrement. C'est-à-dire de se doter d'une capacité d'anticipation et se donner un horizon où on pourra faire comme les États latino-américains, voire réduire drastiquement la dépendance à l'humanitaire. Merci pour votre attention.
Je remercie Madame Emilienne Anikpo Ntam de son excellente intervention. Simplement un tout petit détail, vous avez dit, vous avez classé, ça lui ferait certainement très plaisir dans l'au-delà où il se trouve, Raoul Follereau, parmi les docteurs en médecine, Raoul Follereau, comme vous le savez, n'était pas médecin et était avocat. Et il a usé du verbe plus que de la seringue et de la pilule. Et d'autre part, je crois que ce que vous avez dit pour la maladie du sommeil est vrai, mais que beaucoup actuellement s'en préoccupent encore et pensent que la maladie du sommeil pourrait peut-être se réveiller et qu'il y a des organisations non gouvernementales qui voudraient qu'on reprenne cette maladie qui est un peu considérée comme négligée.
Voilà. J'ai travaillé là-dessus et c'est comme ça que j'ai fait votre connaissance.
Parfait.
C'est la résurgence.
Merci de le rappeler publiquement. Et puis alors, je voudrais dire une chose, c'est que l'Organisation mondiale de la santé, qui est parfaitement respectable, est pour le meilleur et pour le pire une organisation politique. C'est une organisation politique parce qu'elle représente tous les gouvernements politiques du monde et que ça peut parfois lui porter des avantages, mais aussi des inconvénients. Il y a des exemples qui pourraient être à rappeler. En tout cas, merci pour cette intervention qui ouvre la table ronde sur le Mali. Maintenant que nous sommes bien au courant de ce qui peut se passer au niveau de l'Organisation mondiale et face à des catastrophes, nous pouvons peut-être donner la parole à M. Salif Samaké.